Question d'islam par Ghalib Ben Cheikh. Aujourd'hui, nous parlerons du Coran, à la fois entre son historicité et son universalité. Ce sont les deux dimensions de cette révélation coranique qui, pour les croyants musulmans, est la parole de Dieu. Nous interrogeons tout ça, toutes ces notions, avec l'islamologue Youssouf Sangaré. Youssouf Sangaré, bonjour.
Bonjour, cher collègue.
Merci de nous faire l'amitié de venir. Merci de nous édifier par à la fois vos propos et le fruit de vos recherches. Vous êtes cofondateur des Cahiers de l'Islam. De nos jours, c'est ce qu'il faut. C'est un site internet grand public, mais aussi c'est une revue académique. Alors, vous vous êtes inspiré davantage de l'œuvre de l'islamologue qui nous a quittés déjà en 1974, le 6 juin. Et de mémoire, j'ai retenu sa date parce qu'elle est facile, c'est le 14 août 1914 aussi. Donc, dans sa 60e année, il nous a quittés, mais c'est un homme d'une grande érudition, d'une grande connaissance, et nous sommes quelques-uns à vouloir perpétuer, et vous en faites partie, son œuvre, son héritage. Et qu'est-ce qui vous a amené d'abord, Youssouf Sangaré, à vous intéresser à l'homme ?
D'abord, le projet d'un ouvrage sur la pensée de Fazlur Rahman est né au cours en fait de mon travail de doctorat, où j'ai soutenu une thèse à l'université de Strasbourg en décembre 2016 sur la notion de fin de la prophétie en islam. Et Fazlur Rahman, il s'est fait que il a écrit un ouvrage sur la question de la prophétie en islam, dans lequel il essaie de confronter à la fois les lectures classiques, que lui il appelle les lectures dans les premiers siècles de l'islam, et il confronte ces lectures-là avec les relectures chez les auteurs musulmans à l'époque moderne de la question de la prophétie. À la lecture de cet ouvrage-là, la pensée qu'il développait là-dedans est une pensée qui m'interrogeait, parce qu'à la fois, il soulève des interrogations autour de la révélation coranique. Ces questions-là ont des échos aussi chez d'autres penseurs comme Mohamed Iqbal, dont on pourrait parler aussi, qui a influencé sa pensée, et qui est aussi un auteur sur lequel je travaille dans le cadre de mon passé. Et donc, je me suis intéressé à Fazlur Rahman à travers cette question de la prophétie et les questions qu'il soulevait autour de la révélation coranique. Et mon idée, c'était d'arriver à comprendre comment la pensée d'Iqbal a influencé Fazlur Rahman et quelles contributions il apportait à la pensée islamique et aux défis auquel la pensée islamique était confrontée.
Alors, vous avez cité Mohamed Iqbal, dont certains disent, du côté de sa poésie, qu'il est le Victor Hugo musulman, Hamid Bergson. Et puis, vous pensez, et vous parlez de cette influence de Mohamed Iqbal sur Fazlur Rahman, ce penseur pakistanais, mais quand il est né, il n'y avait pas de Pakistan. Il est parti aux États-Unis, puis est revenu. Je ne pensais pas du tout vous poser cette question, mais comme vous parlez de la prophétie, quel est le statut ou la notion, ou votre compréhension, vous, comme jeune islamologue, Youssouf Sangaré, du scellement de la prophétie? Qu'est-ce qu'on entend par une prophétie scellée ou arrêtée, ou ce cycle de la prophétie fini avec la prophétie mohammedienne?
La question du scellement de la prophétie est une doctrine aujourd'hui en islam. C'est une doctrine fondamentale. Régis Blacher, dans sa traduction du Coran, quand il arrive à ce verset-là, qui est un verset de la sourate Al-Ahzab, la sourate 33 du Coran, verset 40, il dit en commentaire à ce
verset, la sourate des coalisés.
Des coalisés ou des fractions. Et il dit en commentaire à ce verset-là, en note, en disant cette notion est une doctrine théologique fondamentale en islam. La question que moi je me suis posée quand j'ai lu la note de Blacher, c'est comment savoir cette expression, quand le Coran parle de Khatam Nabiyyin, c'est-à-dire le sceau des prophètes, est devenue une doctrine théologique fondamentale. Quand on remonte en fait au premier siècle de l'islam, on trouve différentes lectures de cette expression. Une des premières lectures que l'on trouve chez Aïcha, l'épouse du prophète, on dit qu'un jour elle a entendu des compagnons dire que quand le Coran qualifie le Mohammed de Khatam Nabiyin, les compagnons disaient, cela signifie la Nabi Abadahu, c'est-à-dire, il n'y a pas de prophète après lui. Quand Aïcha, elle a entendu ça, elle s'est adressée au Coran, elle les a interpellés en disant, Khulu Khatam Nabiyin, wala takhulu la Nabi Abadahu. Dites le sceau des prophètes, mais ne dites pas qu'il n'y a pas de prophète après lui. Après, cette phrase de Aïcha a soulevé des interrogations chez des auteurs musulmans. Ça a donné lieu à des controverses parce que comment comprendre que Aïcha faisait la différence entre le fait d'être le sceau du prophète et pas de prophète après lui. Donc la question du scellement de la fin de la prophétie. Ces controverses ont continué tout au long des premiers siècles, jusqu'à l'époque d'Al-Ghazali. Al-Ghazali, dans son Iqtisad, où il, en fait...
Un ouvrage qu'on peut intituler par celui qui s'économise ou l'économie de...
Dans les doctrines, voilà.
Dans les doctrines religieuses, oui.
Et dans cet ouvrage-là, Al-Ghazali, lui, il soulève la question, est-ce qu'on peut excommunier un musulman qui ne croit pas à la question de la fin de la prophétie. Hal yajuz takfir al-mu'min alladhi la yu'min bil khatm. Et donc Al-Ghazali soulève cette question et la réponse en fait qu'il apporte à cette question est une réponse des plus nuancées. Parce que pour lui, quand le Coran dit khatam nabiyyin, on peut l'interpréter de la même manière que quand le Coran parle de la main de Dieu. On peut l'interpréter de manière métaphorique. Et Al-Ghazali propose une interprétation rationnelle pour lui qui est de dire que khatam nabiyyin signifie le prophète le plus résistant, Ulul Azm minan Nabiyyin, voilà, qui a fait œuvre de résistance, de détermination.
Et est-ce que aussi on peut comprendre, comme certains le comprennent, le sceau de la prophétie est une sorte de prééminence, une sorte de marque, sinon ça ne veut pas dire nécessairement et exclusivement fin.
Exactement. Et dans les premiers siècles, justement, on trouve cette lecture à la fois, notamment à travers des hadiths, où le sceau, on va dire que le sceau, le Khatam Nabiyyin était aussi un sceau, une marque que le prophète portait, le Mohammed portait sur son épaule. Il y a des débats sur l'emplacement de ce sceau, sur le fait que le sceau, ça, c'est aussi, a une signification de tafdil, le fait que le prophète a une sorte de que Dieu a préféré. Il y a eu une préférence de Mohammed auprès de Dieu, etc. par rapport aux autres prophètes. Ces débats-là, donc, on trouve plusieurs lectures de ces versets-là jusqu'à l'époque contemporaine. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était de comprendre en fait l'évolution de ces lectures des premiers siècles de l'islam jusqu'à l'époque contemporaine. Et à l'époque contemporaine, on trouve des lectures, ça commence par Mohamed Abdou, qui est mort en 1905, qui va soulever la question de ce que signifie le fait que Mohamed soit le Khatam Nabiyyin. Lui, il l'interprète comme étant le dernier des prophètes. Voilà. Abdou pose cette question, qu'est-ce que ça signifie pour les croyants? Lui, il va dire, ça signifie que si Mohammed était le dernier des prophètes, c'est parce que l'humanité est arrivée à un stade de maturité. Abdou ne développe pas plus loin son argumentaire, mais cette idée sera reprise par Mohamed Iqbal, donc qui est mort en 1938, auteur pakistanais, qui lui va dire, voilà, la fin de la prophétie, c'est le début de la responsabilité rationnelle. Donc lui, il fait le lien entre khatm, donc fin ou saut, avec la question du taklif, de la responsabilité. Et Iqbal développe cette idée dans son ouvrage majeur « Reconstruire la pensée religieuse de l'islam ». Et la lecture d'Iqbal est reprise, notamment par Fazlur Rahman, par plusieurs auteurs. Et Fazlur Rahman, en fait, s'il a été influencé par Iqbal, il prend un peu ses distances par rapport à cette notion. Parce qu'il considère que quand Iqbal dit « la fin de la prophétie signifie le début de la responsabilité rationnelle », donc les hommes, en quelque sorte, la raison succède à la prophétie. Pour Fazlur Rahman, c'est vrai. La raison succède à la prophétie, c'est parce que les hommes sont devenus matures. Mais pour lui, il faut ajouter une autre dimension. C'est celui de la maturité morale. Pour lui, Dieu a scellé la prophétie pour que les hommes à la fois soient responsables sur le plan de la raison, mais qu'ils recherchent la maturité morale. Et pour lui, donc pour Fazlur Rahman, l'enjeu, c'est de savoir comment arriver à cette maturité morale. C'est ce qui engendre chez lui toute une réflexion sur l'herméneutique du Coran, comment faire l'interprétation du Coran justement pour amener les hommes à cette maturité rationnelle, à cette maturité morale.
Alors le scellement de la prophétie ou la fin de la prophétie, c'est le début de la responsabilité des hommes, mais aussi l'engagement rationnel de l'humanité, bien que cela repose aussi sur quelque chose d'irrationnel. La prophétie demeure irrationnelle pour beaucoup de nos semblables.
Bien sûr, d'ailleurs, dans les premiers siècles de l'islam, il y a eu tout un débat entre les auteurs musulmans. Notamment, il y a un courant, qu'on appelle les courants des Brahmanes, qui s'opposait justement, qui pointait du doigt l'irrationalité de la révélation. Parce qu'ils considéraient que Pourquoi Dieu va envoyer seulement quelques élus, quelques hommes pour guider les autres? Pourquoi Dieu ne rend pas tous les hommes responsables, rationnellement et éclairés pour qu'ils se guident eux-mêmes? Et donc, cette question de l'irrationalité de la prophétie même, de la révélation même, était a engendré toute une littérature à l'époque médiévale dans la pensée islamique, qui est la littérature de Dala el-Nubuwa, les preuves de la prophétie, où on va essayer de défendre justement à la fois la rationalité de la prophétie, mais aussi sa nécessité pour les hommes.
Cher Youssouf Sangaré, je ne pensais pas que nous allions y passer tout ce temps-là, parce que ce n'était pas prévu, mais avec vous, on peut aborder toutes ces questions théologiques fondamentales. Revenons donc au Coran, entre historicité et universalité. Et j'ai dit en début d'émission que le Coran est la révélation, c'est la parole de Dieu, c'est le postulat de base pour les musulmans, mais ces mots-là, ces expressions ont besoin d'être interrogées. Qu'est-ce qu'on entend par parole de Dieu? Est-ce que ce qui se trouve dans l'empyrée céleste, cette mer du livre, et ce que nous avons entre les mains, entre deux couvertures, a la même signification, ou est-ce qu'il y a ce qu'un physicien aurait pu dire, une sorte de perte en ligne?
Ça, c'est une question difficile à trancher. Mais moi, étant donné que je travaille sur des auteurs, ce qui m'intéresse, c'est comment les auteurs musulmans essayent de penser, notamment les auteurs modernes, contemporains, essayent de penser justement cette question de la parole de Dieu. Quand on prend, par exemple, Fazlur Rahman, quand Fazlur Rahman, en fait, donc, qui est auteur pakistanais, qui a fait une thèse de doctorat sur la pensée d'Ibn Sina, Avicenne, qui est mort en 1037, après qui a été professeur à l'université de Chicago. Mais après son doctorat, il était retourné au Pakistan à l'appel du président Ayub Khan pour créer un institut afin d'accompagner, sur le plan religieux, les réformes que l'État pakistanais voulait initier. Et Fazlur Rahman a été contraint à l'exil lorsqu'il dirigeait cet institut-là, parce que justement, il s'est intéressé à la question de ce que signifie la parole de Dieu. Dans un de ses écrits, dans la revue de cet institut, Fazlur Rahman disait que le Coran est à la fois la parole de Dieu, et en même temps la parole de Mohammed. Cette phrase a fait scandale et ça a provoqué son exil. Après, toute la question, c'est de savoir cette à la fois parole de Dieu et parole de Mohammed.
Alors, d'aucuns disent que c'est la parole de Dieu qui a été humanisée, en tout cas, et qui a épousé les contingences humaines par la parole de Mohammed. D'autres disent que ce n'est qu'une inspiration et c'est Mohammed qui restitue ce qui lui a été inspiré. Tout ce débat-là nous fait revenir à la question de la prophétie. Du coup, cette fois-ci, de mon point de vue, à juste raison, est-ce que le prophète n'était qu'un prophète passif ou est-ce qu'il imitait du sien?
C'est là la question centrale. Pour Fazlur Rahman, il se base notamment sur les passages du Coran où le Coran dit « Nous avons fait descendre sur ton cœur la révélation ». Donc, pour lui, cette expression coranique crée une intimité entre le prophète, entre le messager et son message. Et donc, dire que le Coran est descendu sur le cœur du prophète, pour Fazlur Rahman, ça fait à la fois du Coran. Pour lui, cette expression fait que le Coran ne pouvait pas être étrangère au prophète. Donc, pour lui, il y a une intimité entre Mohammed et son message. Et c'est pourquoi, lui, il arrive à cette expression que le Coran a à la fois la parole de Dieu, mais aussi la parole de Mohammed. Étant donné que c'est descendu sur son cœur, pour lui, ça veut dire que le Coran a été préservé dans son cœur. Et donc, pour Fazlur Rahman, c'est là une conséquence. C'est que, pour lui, pour comprendre le Coran, il faut à la fois, lui, il appelle ça les situations existentielles dans lesquelles le prophète était pris. Il faut à la fois revenir à ces situations-là pour comprendre le Coran, le contexte dans lequel vivait le prophète, puisque le Coran a été préservé dans son cœur et que donc ça a engagé à la fois les émotions, tout ce qui pouvait le toucher dans son propre contexte. Donc à la fois parole de Dieu, mais aussi il faut comprendre la société dans laquelle le prophète vivait, les sentiments qu'il pouvait avoir, etc. Et donc ce lien entre une révélation, puisque Fazlur Rahman, c'est la parole de Dieu, une révélation divine, mais aussi qui est passée par le canal de l'humain, le prophète.
Est-ce qu'on entend par là, je ne veux pas vous interrompre, Youssouf Sangaré, l'herméneutique moderne chez Fazlur Rahman, ce penseur, son herméneutique du Coran, avec la théorie du double mouvement?
Exactement. C'est cette double dimension de la révélation coranique, parole de Dieu et parole de Mohammed, c'est ce qui conduit Fazlur Rahman à... Parce que pour lui, comment faire du coup pour arriver à comprendre le texte coranique, à la fois parole divine, mais aussi parole inscrite dans l'histoire, dans une histoire particulière, celui de Mohammed. Et pour lui, pour comprendre ça, Fazlur Rahman propose une méthode herméneutique qu'il appelle herméneutique du double mouvement, qui consiste à, pour lui, pour comprendre le Coran, il faut, pour un lecteur, revenir au moment coranique, le moment où vécut le prophète. Donc, à la fois, il y a le texte et le moment où vécut le prophète, pour essayer de comprendre la révélation dans le contexte où vivait le prophète. Parce que pour lui, il y a une autre expression de Fazlur Rahman qui a fait polémique, où il dit « le Coran, c'est la réponse divine à travers l'esprit de Mohammed au problème de la société arabe de son époque ». Et donc, revenir à ce contexte dans lequel vivait le prophète, le contexte de sa société, la révélation coranique, et aussi donc comprendre les situations existentielles dans lesquelles était engagé le prophète, c'est le premier mouvement. Et le second mouvement consiste à revenir au moment du lecteur, le contexte particulier dans lequel vit le lecteur, pour essayer de réaliser ce que Fazlur Rahman appelle les finalités morales du Coran. Parce que pour Rahman, en fait, le retour au Coran ne doit pas être un simple voyage dans l'histoire. Il faut revenir au Coran, à la citation du prophète, pour essayer de comprendre quoi ? Essayer de comprendre les finalités morales du Coran. Parce que pour Fazlur Rahman, au-delà de la lettre du texte, il y a les finalités que le Coran cherchait à réaliser dans le contexte particulier de la société prophétique. Et donc le lecteur doit revenir à ce contexte-là pour comprendre ses finalités et après revenir à son propre contexte pour réaliser, voir comment il peut réaliser ses finalités morales dans son propre contexte.
Youssouf Sangaré, en vous écoutant, est-ce qu'on peut pas d'ores et déjà dire que l'erreur cruciale et fondamentale des courants littéralistes et salafistes est de canoniser la vie des Arabes au 7e siècle au moment de la réception de la révélation coranique, et par moment c'était une sorte de jurisprudence pour des hommes et des femmes qui étaient en cours de mutation, qui allait passer de l'état tribal à une sorte de confédération.
Par rapport à au courant littéraliste qui sacralise un certain nombre de lectures ou d'interprétations du Coran, Fazlur Rahman, en fait, lui, quand il propose par exemple le double mouvement, il considère qu'il faut aussi essayer de comprendre comment les musulmans ont interprété le texte coranique tout au long de l'histoire. Mais cette lecture n'est pas pour s'agripper à ces interprétations, mais pour essayer de les confronter à ce que lui appelle l'islam du Coran qui n'a pas été pollué par les interprétations et les lectures. Il s'agit de confronter à la fois les lectures historiques faites par les musulmans avec les finalités morales du Coran que le lecteur est arrivé à comprendre, confronter ces lectures-là afin de dégager ce que lui il considère parmi les lectures faites par les musulmans tout au long de l'histoire, là où les auteurs ont été fidèles ou infidèles aux finalités morales du Coran. Donc, il y a un tri, pour lui, il y a un tri à faire dans ses interprétations. Et aussi, parmi la différence avec les lectures littéralistes, c'est que, pour Fazlur Rahman, l'histoire est une des dimensions essentielles de l'herméneutique. Or, pour le courant littéraliste, la dimension historique n'existe pas. On retourne à la lettre. Or, pour Fazlur Rahman, cette dimension historique, elle est importante, elle est déterminante, parce que justement, le Coran même étant passé par le canal de Mohammed, Mohammed étant le médium, l'histoire, dans la société dans laquelle vécu Mohammed, cette histoire-là est aussi déterminante. Et à la fois, l'histoire des lectures du Coran par les auteurs musulmans tout au long de l'histoire, tout au long du temps, est aussi déterminante pour comprendre comment à chaque période, les musulmans ont compris le Coran. Cela permet si l'on s'intéresse à ces lectures-là tout au long de l'histoire, cela permet, selon lui, de voir comment le texte coranique a eu des multiples lectures en fonction des temps et en fonction des contextes. Et donc, ça permet d'humaniser justement cet héritage, ce tourath, ce patrimoine interprétatif venant des auteurs musulmans. Ça permet justement de le restituer à son historicité.
Mehda husn vi tu, mehda husn vi tu, jindi jaan vi tu te imaan vi tu menda ishq vi tu menda husn vi tu menda ishq vi tu menda husn vi tu jindi jaan vi tu te imaan vi tu menda ishq vi tu menda husn vi tu menda ishq vi tu menda ishq vi tu menda husn vi tu jind jaan vi tu te imaan vi tu jind jaan vi tu te imaan vi tu menda ishq vi tu menda husn vi tu menda ishq vi tu menda husn vi tu
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec aujourd'hui l'islamologue Youssouf Sangaré et nous parlons du Coran. Nous parlons du Coran entre historicité et universalité. Nous nous fondons tous les deux, mais davantage Youssouf Sangaré qui connaît ces choses-là infiniment mieux que moi, sur la pensée de Fazl ar-Rahman, cet islamologue contemporain. Enfin, tout au long, une trajectoire de vie qui se confond avec le XXe siècle, et nous parlons du double mouvement, cette herméneutique moderne du Coran. Youssouf Sangaré, si vous voulez bien, nous voudrons appliquer cette théorie du double mouvement à des cas concrets, face par exemple au... Allez, c'est un cas classique... La situation de la femme, encore une fois. Comment peut-on comprendre le découplage qu'il peut y avoir entre l'égalité ontologique, une égale dignité d'êtres humains, mais l'approche plutôt juridique qui pourrait donner une prééminence aux hommes et donc un statut infériorisant aux femmes?
Alors, sur cette question, justement, Fazl ar-Rahman, il prend des cas pratiques, notamment sur la question de la question du statut des femmes. Pour lui, il critique en fait l'attitude de certains auteurs musulmans qui consiste à dire que, par exemple, sur la question de la polygamie, que le Coran ne recommande que la monogamie. Pour lui, non. Lui, il considère que, par exemple, le Coran, lui, il y a la polygamie dans le Coran. Mais la question, pour lui, justement, c'est de savoir pourquoi. Parce que pour lui, le fait de dire que, par exemple, la question de la polygamie n'existe pas dans le Coran, pour lui, c'est nier quelque chose que l'on trouve écrit dans le texte. Mais pour lui, justement... On ne sera pas en contradiction si on revient, non pas au texte seulement, mais si on revient aux finalités morales que le texte cherchait à réaliser dans le contexte de la société prophétique. Parce que pour Fazl ar-Rahman, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une dimension qui est importante, c'est que pour lui, le Coran ne pouvait pas ignorer le contexte dans lequel il est descendu, le contexte dans lequel il a été révélé, donc dans la société prophétique. Et dans cette société-là, les femmes n'avaient pas les mêmes statuts que les hommes. Donc pour lui, le Coran a pris en compte cette société-là, tout en cherchant à faire évoluer les mentalités vers justement ce que vous appelez l'égalité à la fois ontologique et l'égalité sur le plan juridique entre les hommes et les femmes. Mais pour lui, le Coran n'est pas arrivé au bout de ce processus, parce que la révélation, à un moment donné, s'est arrêtée. Et donc, pour Fazl ar-Rahman, ce qui est important, c'est à la fois de revenir au texte, mais de regarder la direction dans laquelle le texte voulait conduire la société prophétique. Et c'est cette direction qu'il faut poursuivre, et non pas la lettre du texte. Et c'est pourquoi il est un peu critique à travers des auteurs, comme je disais tout à l'heure, envers un certain nombre d'auteurs musulmans qui vont dire que la polygamie n'existe pas le Coran. Parce que pour lui, il faut revenir au texte et regarder justement la direction dans laquelle, et non pas rester agrippé à la lettre du texte. La lettre du texte, elle est là. La même chose aussi pour quand, par exemple, le Coran parle de couper la main du voleur. Pour Fazl ar-Rahman, oui, c'est écrit dans le Coran. Mais il faut chercher à savoir qu'est-ce que le Coran voulait réaliser à travers une telle jurisprudence. Et là aussi, pour lui, en réalité, si l'on cherche à savoir les finalités coraniques, les finalités que le Coran recherchait, en réalité, cette couper la main du voleur nous conduit à d'autres lectures que la simple lecture littéraliste et la coupure pure simple de la main d'un voleur.
L'amputation de la main du voleur. Youssouf Sangaré, en vous écoutant, je vois là une sorte de plaidoyer pour ce que d'aucuns appellent, dans l'herméneutique contemporaine, la lecture finaliste, vectorielle, vectrice.
Que l'on trouve chez Talbi, par exemple.
Qu'on trouve chez Talbi. Nous avons consacré aussi une émission où nous avons essayé de lui rendre un grand hommage parce qu'il nous a quittés, hélas,
récemment.
Et donc, si je comprends bien, la position de Fazlur Rahman et que vous faites vôtre, c'est que ce n'est pas la peine de tordre le, plier le texte au désir de maintenant, c'est simplement le relativiser à son contexte et poursuivre la visée,
la ligne, que la direction dans laquelle le texte voulait amener la société prophétique.
Alors reprenons les deux exemples que vous avez cités, celui de l'amputation de la main. D'aucuns disent que même le verbe couper ne veut pas dire amputer, mais veut dire faire une petite entaille, à la même manière que ces femmes qui ont été subjuguées par la beauté de Joseph, j'allais dire Youssouf, qui se sont faites des entailles, c'est le même verbe, alors elles ne se sont pas coupées la main. Et pour revenir à la tétraginie, c'est le terme technique puisqu'il s'agit de quatre épouses, il faut savoir relativiser au cadre de la prise en charge des veuves et des orphelines, et puis assujettie à des règles d'équité, comme elles sont quasiment irréalisables. Donc du coup, il y a un plaidoyer fort pour la stricte monogamie. Donc vous pensez que ce type d'exégèse et d'herméneutique, c'est plutôt quelque chose qu'il faut dépasser et simplement continuer à aller vers la visée éthique de tel ou tel passage coranique.
Pour la question de la polygamie, par exemple, pour Fazlur Rahman, si justement pour ne pas tordre le texte et ce que lui appelle imposer au Coran ses propres obsessions, mais essayer de prendre le texte et regarder les finalités qu'il essayait de réaliser. Justement, si on prend ces finalités-là, pour lui, en réalité, à la fois, la polygamie ne peut pas exister. C'est-à-dire, la polygamie ne peut pas exister en dehors de la société prophétique. Et pour Fazlur Rahman, il y a quelque chose aussi qui est important, c'est que si la polygamie existait dans la société prophétique, le but du Coran n'est pas de faire de telle sorte que toutes les sociétés ressemblent à la société prophétique. C'est pas le but de la révélation coranique. Le Coran vient, il prend en compte les problèmes qui existaient dans la société du prophète, mais cela ne signifie pas que ces problèmes doivent être les problèmes partagés par l'ensemble de l'humanité. Ce qui intéresse le reste de l'humanité, c'est justement les finalités. Et donc, les finalités que le Coran cherchait à réaliser. Et parmi une de ces finalités, c'est justement l'égalité ontologique et juridique entre les hommes et les femmes. Et c'est ça qui doit interpeller les autres sociétés. Et c'est là la base de l'herméneutique de Fazlur Rahman, c'est à la fois revenir au texte et essayer de dégager justement ses finalités morales. Et pour lui, c'est ça qui conduira à faire du texte coranique, à rendre le texte de partir de l'historicité du Coran et de chercher ses finalités et à partir de ses finalités de rendre le texte universel. Parce que si on reste uniquement dans les cadres de la société prophétique et prendre par exemple la polygamie ou couper les mains du voleur, qui sont des choses qui étaient liées à une société particulière, dans un contexte particulier à un moment donné de l'histoire, si on reste agrippé à ça, en réalité le Coran, on le dépouille de son universalité pour lui. Et donc, la seule chose qui rend le texte universel, ce sont ses finalités, et non pas les cas particuliers qu'il traitait là dans la société du prophète.
Alors pourquoi, c'est aussi un point que vous soulevez, est-il difficile de nos jours de revenir au contexte socio-historique? C'est une sorte de panique qu'ont certains de trahir la lettre du Coran, ou c'est parce que l'historiographie bute et peine à rendre compte de ce qui se passait? Pour le cas des femmes, par exemple, il y a des points paradoxaux. D'un côté, on a celles qui pouvaient diriger des caravanes ou du commerce ou du négoce, voire des batailles. Et de l'autre côté, on enterrait vivant le nourrisson femelle.
Oui, il y a une difficulté justement avec à la fois du fait aussi que la matière parfois historique manque pour comprendre d'une manière pleine et entière la société prophétique et le contexte de la révélation. Et d'ailleurs, Fazlur Rahman, il prend en compte cette difficulté. Parce que lui, quand il dit, il faut revenir au contexte de la société du prophète et il faut retourner au Coran et prendre en compte ce qu'on appelle dans les sciences islamiques les asbab nuzul, donc les contextes de la révélation de tel ou tel verset, il y a une difficulté à remonter à ces contextes de la révélation. Parce que justement, l'une des difficultés, c'est que pour lui, lorsqu'on veut revenir au contexte de la révélation, on passe par des ouvrages qui ont été écrits par des auteurs qui, lui, ne l'accusent pas, mais qu'il considère que ces écrits peuvent aussi constituer un filtre entre le lecteur et le contexte de la révélation du Coran. Donc il y a une difficulté. Mais pour lui, malgré cette manque d'écrits historiques et aussi le fait qu'il y a eu peut-être un filtre à travers les auteurs, puisque les auteurs pouvaient s'intéresser à telle ou telle dimension de l'action prophétique du prophète même ou de sa société, pour lui, le plus important, même si on n'arrive pas à connaître entièrement le contexte de la société prophétique ou le contexte de telle ou telle révélation, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est de prendre en compte un certain nombre de finalités morales et éthiques que le Coran cherchait à réaliser. À la fois, pour lui, le Coran cherchait à la fois à cette libération des esprits, libération des hommes. Quand le Coran dit « وَلَقَدْ قَرَمْنَا بَنِي Adam », certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Fazlur Rahman va se baser là-dessus pour dire « voilà ». Un homme, le Coran, en aucun contexte, le Coran ne peut être utilisé pour avilir les hommes. Parce que justement, un des objectifs qu'il affirme clairement, c'est que, voilà, il est venu pour honorer et donc les libérer, les, voilà. Donc, c'est une des dimensions.
D'accord. Le Coran insiste sur l'ennoblissement des fils d'Adam ou le fait de les honorer. Et il se trouve que malheureusement, certains, dans une compréhension à la fois tatillonne, ont avili l'homme au nom même de ce Coran, et donc vous mettez le doigt sur ces contresens. Comment faire pour que cet islam originel, certains parlent du moment mohammedien et aussi la longue et lente construction humaine de l'islam, eh bien ne soit pas la focalisation, encore une fois, des courants salafistes?
Justement, c'est une question importante parce que Fazlur Rahman, lui, il est obsédé par, il y a une sorte d'obsession par ce retour à avoir accès à cet islam originel, que lui, il appelle l'islam pur. Mais contrairement aux lectures littéralistes, qui pour eux, l'islam pur, pour y avoir accès, il faut passer par la lecture de tel ou tel courant de l'islam, que ce soit un courant juridique ou les courants doctrinaux, à la fois les écoles théologiques, etc. Pour le littéraliste, il faut passer par le filtre de tel ou tel savant, parce que les littéralistes considèrent que tel ou tel savant était mieux à même de comprendre telle ou telle chose dans le Coran. Pour Fazlur Rahman, c'est pas par le filtre. Comme je disais tout à l'heure, contrairement à l'approche littéraliste, pour lui, pour avoir accès à l'islam originel, à l'islam pur du Coran, il faut prendre en compte l'histoire comme une des dimensions essentielles de toute approche du Coran, de toute herméneutique, de toute interprétation de la révélation coranique. À la fois l'histoire dans laquelle le Coran est descendu, mais aussi l'histoire tout au long de l'histoire, comment les musulmans ont interprété le texte coranique. Parce que justement, ces lectures vont révéler, pour lui, au lecteur, la multiplicité, ces lectures multiples, tout au long de l'histoire, venant des musulmans eux-mêmes. Et donc, ça permet justement de relativiser ces lectures, de les inscrire dans leur propre contexte et de prendre en compte les dimensions, les contextes politiques ou théologiques, les conflits théologico-politiques qui justement justifiaient ou entraînaient ces lectures. Donc, déshumaniser.
Bien. Youssouf Sangalé, comment faire alors? Moi, je ne fais que poser des questions dont je mesure que les réponses peuvent être difficiles ou engageantes, que ces obsessions dont parlait Fazlur Rahman, auxquels certains ont la tentation de plier, voire de ployer le texte coranique, soient évacués ou exorcisés. Et parmi ces obsessions, il y a l'obsession de la norme juridique, la norme religieuse devenue de plus en plus grosse, obèse et qui étouffe. Comment peut faire pour apaiser les esprits, déculpabiliser des consciences, pour ne pas avoir ce lien normatif obsessionnel?
Cette question de l'hypertrophie du droit musulman, c'est une des questions qui est posée par Fazlur Rahman. Et le fait que le droit a pris justement une place de plus en plus importante, justement pour Fazlur Rahman, c'est quand on revient à la fois à la révélation coranique, en cherchant les finalités du Coran, pour lui en réalité, le domaine juridique, pour lui, en fait... Al-Ghazali, par exemple, qui est un auteur mort en 1111, avait dit qu'il y avait à peu près 500 versets normatifs dans le Coran, donc à dimension juridique.
Au plus, parce qu'entre l'explicite et l'implicite, entre l'abrogeant et l'abrogé, certains disent que c'est entre 200 et 500, à supposer que l'approche quantifiée soit pertinente, mais admettons, oui.
Et donc, Fazlur Rahman, en fait, il prend ça, il dit... Prenons l'évaluation faite par Al-Ghazali, qui a à peu près 500 versets normatifs dans le Coran. Si on prend cette quantification, en réalité, on essaye justement de comparer ces 500 versets à l'ensemble plus de 6000 versets dans le Coran. Pour lui, justement, donc, cela montre que le côté juridique n'est pas une des finalités du Coran. Et aussi, quand on prend, en fait, pour lui, quand on prend les finalités, les grandes finalités que le Coran cherchait à réaliser, si le normatif en faisait partie, le Coran aurait été plus explicite sur un certain nombre de versets normatifs, notamment par exemple concernant la coupeur du mec dont vous avez signalé la difficulté de l'interprétation, et notamment dans les premiers siècles. Et d'ailleurs, sur cette question, Fazlur Rahman, il essaie de confronter à la fois les lectures des Corans hanafites de Abu Hanifa et d'autres courants juridiques qui s'opposaient justement sur la manière de couper la main ou pas, est-ce qu'on coupe, etc. Et donc trouver justement des circonstances à tel ou tel fait pouvant relever justement de ce verset-là.
Ce que d'aucuns réservaient uniquement au cas de brigandage avéré et d'attaques, on aurait pu dire de nos jours des attaques à main armée. Mais bon, on est dans le contexte de Abu Hanifa, le maître éponyme de la première école juridique. Ça serait une solution, selon vous, Youssouf Sangaré, de déjuridiciser ou de ne pas arrimer la production du droit à la révélation coranique de nos jours et de ne garder, pour ceux qui y croient, que le souffle éthique, spirituel et la finalité morale.
En fait, pour Fazlur Rahman, toute normativité qui s'inspire du Coran, pour lui, en fait, il n'y a pas de normativité coranique. On peut élaborer des lois en s'inspirant de tel ou tel passage du Coran. Mais pour lui, là aussi, il faut revenir, il faut s'inspirer. Ce que je disais tout à l'heure, à la fois que le Coran est là pour anoblir les hommes, pour lui, c'est un passage, ce passage coranique doit constituer un pilier pour toute normativité. Et donc, on ne peut pas utiliser le texte pour soit opprimer les personnes, etc. Parce que, justement, ça va à l'encontre de la finalité morale du Coran. Donc, il n'y a pas de normativité de droit issu du Coran, mais on peut constituer un droit, un cadre normatif qui s'inspire du Coran. Et qui s'inspire de quoi ? De ses finalités morales.
Et les philosophes du droit disent qu'on ne peut pas légiférer sans s'adosser à un principe métaphysique transcendant. Mais ça, ce sont c'est la philosophie du droit qui le fait savoir.
Ben justement, sur cette question, là, par exemple, pour Fazlur Rahman, il prend le cas d'Abu Hanifa. Avant d'écrire, en fait, sur le droit, il dit...
Hanifa, mort en 767, c'est
exactement.
Pour ramener la date, oui.
Un des premiers juristes, avant d'écrire sur le droit, avant de rentrer dans le détail du fiqh, de la compréhension, de la jurisprudence, il écrit d'abord sur à la fois les attributs de Dieu, ce qu'il considère même comme étant le grand fiqh, la grande compréhension en quelque sorte. Et donc, lui prend justement ce cas-là pour dire justement, c'est une erreur de voir dans le Coran un livre normatif. Pour lui, non. Le livre même se présente comme une guidance, Huda. Et donc, pour lui, c'est ça. C'est cette dimension qu'il faut garder au livre. Parce que c'est un des noms du livre du Coran qui s'appelle lui-même comme étant une guidance et non pas comme un code juridique.
Oh,
रही वञु रात बंभोर में पेरे पावां दी सान सरतियूं लतीफ चए अदियूं लतीफ चए लोचे लहंदी सान चमंदी सान लोचे लहंदी ओ लोचे लहंदी ओ लोचे लहंदी सान चमंदी सान रही वञु रात बंभोर में अल्लाह रही वञु रात बंभोर में पेरे पवंदी सान चमंदी सान तेरे पवंदी हो तेरे पवंदी हो तेरे पवंदी हो तेरे पवंदी सान चवंदी सान रही वञु रात बंभोर में अल्लाह रही वञु रात बंभोर में तेरे पवंदी सान.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, avec l'islamologue Youssouf Sangaré, nous parlons du Coran, de son historicité, de son universalité, de cette lecture à visée, à finalité éthique notamment, et qu'il ne faut surtout pas y voir une normativité hypertrophiée, pour emprunter votre terme, Youssouf Sangaré. Dans cette dernière partie de l'émission, il y a cette idée... pour certains, que seul le Coran oblige, comme aurait dit l'islamologue Mohamed Talbi, et d'autres qui parlent aussi de la sunna, de la tradition prophétique. Et vous évoquez la notion de sunna vivante, donc de tradition toujours réactualisée. Est-ce qu'il faudrait, pour les croyants musulmans, se sentir obligé uniquement par le texte coranique, ou y a-t-il lieu aussi de puiser dans la tradition prophétique une autre forme de guidance?
Oui, c'est une... pour la question de la sunna vivante, ce n'est pas moi qui l'évoque.
Oui, c'est... la reprenez encore de Fazlur Rahman.
Voilà, c'est pour lui, en fait, c'est lui qui met en avant cette question de la sunna vivante. Parce que pour lui, il considère justement que la sunna, en fait, que tout au long de l'histoire de l'islam, et notamment à l'époque contemporaine, que l'idée de la sunna a été transformée en... Quand on parle de sunna, on voit d'abord des ouvrages, on voit des livres, des kutub. Et donc, parler de sunna, on fait tout de suite le lien entre sunna, donc tradition du prophète, et hadith, les écrits, les paroles ou les actes ou les approbations attribuées au prophète, et qu'on trouve dans les ouvrages écrits par des auteurs musulmans au 9e siècle, etc. Et donc, pour lui, il faut revenir en fait à la société arabe même avant la révélation. Le mot sunna et la pratique, la sunna était une des dimensions de la société tribale. Le fait d'imiter les actes des poètes, les actes des chefs des tribus. Et donc, c'était quelque chose qui existait déjà avant même la révélation. Et donc, pour lui, quand Mohammed est devenu prophète, ceux qui l'ont suivi ont repris cette pratique d'essayer de suivre, de reproduire les actes, de suivre ses conseils, etc. Donc, pour lui, c'est ça l'esprit de la sunna. La sunna, c'est, on a un modèle vivant en face de soi. Et on le regarde et on essaye de reproduire ses actes. C'est d'être à la hauteur de sa noblesse. Et donc, c'est ça, en fait, quand il dit la sunna vivante, pour lui, il faut justement faire la différence entre les hadiths, donc les propos qu'on attribue au prophète ou les propos du prophète, et ce que le prophète a pratiqué lui-même de manière vivante. Et donc, revenir à la sunna, pour lui, c'est une des dimensions essentielles, en fait. La sunna est une des dimensions essentielles pour les croyants. Mais comment revenir à cette pratique vivante? Pour lui, encore une fois, à travers le texte coranique et ses finalités morales.
Oui, alors, il évoque, je parle de Fazl al-Rahman, dont vous êtes le meilleur interprète et vous avez bien sûr restitué sa pensée, qu'il y a un échec du réformisme islamique contemporain. Et comment explique-t-il cela, lui ?
En quelques mots, pour Fazl al-Rahman, en fait, le réformisme musulman qui a au 19e siècle, on peut remonter encore plus loin, mais simplement au 19e siècle qui a échoué, parce que pour lui, dans le monde musulman, depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, il y a eu la superposition de deux élites. À la fois des élites qui étaient formées dans les madarsas, donc dans les écoles traditionnelles où on apprenait les sciences traditionnelles, et aussi une autre élite qui, à travers la colonisation et l'apparition des écoles modernes, se sont formées à l'université. Et pour lui, dans les sociétés musulmanes, ces deux élites n'arrivent pas à communiquer. Et toute la difficulté des réformistes, c'était de comment faire communiquer ces deux élites, à la fois ceux qui étaient formés dans les universités et ceux qui étaient formés dans le madarsa. Et puisque les réformistes n'ont pas pu, en fait, établir un pont entre ces deux élites, ça fait que les sociétés, pour lui, les sociétés musulmanes se sont retrouvées justement avec cette dichotomie entre des élites qui ne communiquent pas entre eux, des élites qui se sont appropriées, pour lui, le texte, le discours religieux, et des élites qui travaillent sur ces sociétés-là à travers des sciences comme la sociologie ou comme l'anthropologie et qui n'arrivent pas à communiquer entre eux. Pour lui, c'est une des causes en fait de l'échec du réformisme musulman. Cette superposition des éducations traditionnelles et modernes. Une autre dimension, c'est justement le fait que dans les sociétés musulmanes, la plupart des masses n'ont pas accès à une éducation de qualité pour lui. Parce que justement, l'école reste le lieu du bachotage et le lieu de la répétition. Et c'est un des défis pour lui. Tout réformisme, justement, doit passer par d'abord la réforme de l'école. Comment conduire justement les masses à la formation, à l'esprit critique au sein même des écoles.
Alors, Youssouf Sangaré, si je comprends bien, l'échec du réformisme islamique à la charnière 19e, 20e siècle et peut-être même de nos jours est dû à la fois à ce que ces élites, l'élite dans les madrasas, dans les écoles coraniques, on va les appeler ainsi par facilité, le nom est un peu plus complexe de nos jours, et puis les élites formées dans les universités n'arrivaient pas à communiquer entre elles, d'une part.
Oui.
Et d'autre part, il y a aussi le modèle même de l'éducation et de l'instruction qui ne poussait pas à la réflexion, poussait simplement, j'utilise votre terme, au bachotage. Mais vous ne pensez pas aussi qu'il y a un autre point soulevé de nos jours qui est une sorte de rationalité fermée qui tourne autour d'elle et qui soumet toute réflexion à la raison religieuse dévote et qu'on n'arrive pas à s'extraire ou à libérer l'esprit de cette autarcie au niveau de la réflexion et on raisonne avec des schèmes mentaux qui ont montré leurs limites.
Et je vais éviter de donner en fait mon propre avis sur ça, mais ce que je peux dire, par exemple, quand Iqbal, par exemple, s'est intéressé à cette question, Iqbal, par exemple, dans un de ses vers poétiques, il l'interroge, il dit « Qu'y a-t-il dans ta mosquée à part les sermons ?» Et à travers cette interprétation, en fait, il visait justement à interpeller les consciences musulmanes face justement à cette raison religieuse qui justement arrive à tout dominer à la fois dans l'espace social et qui prend la place de ce que Iqbal appelait la faculté critique. Et quand Fazl al-Rahman en fait met en opposition à la fois l'élite religieuse et l'élite formée dans les écoles modernes, c'est parce que pour lui, pour arriver en fait à un renouveau de la pensée islamique, il faut une société musulmane dans laquelle ces élites-là peuvent à la fois travailler ensemble et que le discours religieux ne soit plus la propriété uniquement d'une élite religieuse qui s'approprie le discours religieux et qui, parce que justement, se considère comme étant les héritiers des prophètes, donc considère que, voilà, c'est le discours religieux, ce n'est qu'eux, en fait, qui ont le droit de se prononcer sur les problèmes de la société, etc. Donc, il faut arriver à faire collaborer ces deux élites entre eux pour relever les défis auxquels sont confrontées les sociétés musulmanes.
Oui. Et si déjà Mohamed Iqbal, dont nous rappelons sa date de naissance et sa date de mort, donc c'est 1877-1938, le disait, il disait « Qu'y a-t-il dans ta mosquée, ô imam, à part les sermons ?» Qu'allons-nous dire aujourd'hui, où certains, mais je ne voudrais jamais généraliser, l'article « lait » est toujours, toujours problématique et ça nous piège, mais des imams autoproclamés, pour certains, racontent du haut de leur chair parfois des mensonges au regard de la vérité dite historique. Donc c'est un travail d'instruction, d'éducation, de sensibilisation des liturges, de ceux qui conduisent les prières, mais aussi qui doivent enseigner. Et donc trouver un lien entre l'instruction et la formation moderne, contemporaine, et aussi insuffler à la formation religieuse une bonne dose d'oser penser par soi-même.
Sur cette question, par exemple, à la fois des discours qu'on peut trouver dans les mosquées, pour Fazlur Rahman, à la fois, pas seulement dans les mosquées, mais même dans les conférences, les discours ou dans les rencontres organisées par les musulmans, notamment lui, il s'est basé sur le cas du Pakistan et de la Malaisie. Et les discours qu'on trouve dans ces lieux-là, pour lui, c'est la preuve même que la pensée islamique et que les sociétés musulmanes ont besoin, en fait, justement, d'une revivification. Parce que justement, c'est des pensées qui, à la fois, enferment, et notamment un des exemples que Fazlur Rahman prend, justement, sur cet enfermement du discours islamique sur lui-même, c'est le cas, par exemple, aux États-Unis, dans les années 70 et 80, lorsqu'est apparue la notion d'islamisation des connaissances. Fazlur Rahman, il s'attaque à cette question, justement, pour pointer du doigt le fait que, justement, comment la pensée musulmane s'est repliée sur elle-même, alors, contrairement à ce qu'elle était, en fait, à la fois à l'époque du calife Al-Ma'moun, de 813 à 833, Bayt al-Hikma, etc.
Et donc, la maison de la sagesse.
Et donc, comment cette pensée était à la fois, elle était ouverte au monde et travaillait, en fait, faisait un travail à la fois sur les textes, à la fois ses propres sources scripturaires, mais aussi sur des textes venant d'horizons divers. Donc, pour Fazlur Rahman, justement, cette question à la fois des mosquées et du discours islamique montre justement l'ankylose de la pensée islamique et la nécessité, justement, de sa revivification. Mais pour ce faire, pour lui, il faut passer, justement, par le biais de l'éducation. Les réformistes doivent s'intéresser à cette question de l'éducation, comment réformer, comment revivifier l'éducation dans les sociétés musulmanes. Pour lui, si les réformistes ou les réformateurs ne le font pas ça, en réalité, leur discours va rester un discours abstrait et déconnecté de la réalité, qui est le fait qu'ils ont un discours de mobilisation des masses, mais il n'y a pas de public, en fait, pour réceptionner pour ce discours-là. Et donc, pour lui, il faut d'abord passer par ce biais-là. Et ça doit être une des tâches fondamentales pour les réformistes.
Encore faut-il que ce discours soit intelligent, intelligible même. Nous arrivons au terme de l'émission. Merci beaucoup, Youssouf Sangal. Et merci de nous avoir instruits avec votre fougue, votre connaissance. Et le maître mot revient à la connaissance, à l'éducation, à l'instruction, à l'acquisition du savoir. Et c'est ce que vous faites vous-même et c'est ce que vous allez enseigner, notamment dans cette revue académique et ce site internet grand public que sont les cahiers de l'islam. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Jason Taous. Et la réalisation est toujours assumée avec brio par l'ami Franck Lilin.